Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Je vais vous entretenir de culture française et de francophonie. Donc le titre de mon émission, à propos de la culture française et de la francophonie. Au cœur de la francité et du vaste mouvement francophone, on retrouve deux composantes majeures. La culture française, qui est d'une richesse étonnante, oubliée par une partie de nos élites, et les francophonies, nouvelles métamorphoses souvent inspirées par la francité, irriguées par elle et l'irriguant. Le 27 mars 2007, le président Nicolas Sarkozy écrivait dans Le Figaro des propos fort justes sur notre pays et sur l'espace francophone. Je cite « Il faut revenir à une francophonie conforme à l'esprit de Senghor. Pour cela, nous devons, nous Français, nous impliquer davantage dans cette francophonie. » Et aussi, il ajoute « Je veux que l'on crée des maisons de la francophonie, lieux vivants d'art et de culture, où les jeunes pourront toucher du doigt l'originalité des cultures francophones. » Ou encore, dans l'enseignement supérieur, il est urgent de commencer à réfléchir à la création de chaires francophones quasi inexistantes en France. Et le président, bien informé d'ajouter toujours le 27 mars 2007, ce n'est pas aujourd'hui, « Le cœur et l'avenir de la francophonie sont de moins en moins français, mais paradoxalement de plus en plus anglo-saxons. La francophonie sauvée par l'Amérique, ce serait un comble. » Depuis ces déclarations offensives, où en est-on ? Quelques frémissements attestent ici et là que toute volonté n'est pas morte et enterrée, mais est-ce suffisant pour répondre aux attentes ? Je ne le crois pas. Certes, la crise est passée par là, elle continue de nous frapper, mais c'est justement en temps de crise qu'il faut réagir, corriger les erreurs, faire face à de nouvelles situations, aller de l'avant. Pour promouvoir allègrement la francité et la francophonie, il faut avoir foi dans notre chère langue française, le sens de l'intérêt commun et agir dans la transparence. Dans ce dossier, reconnaissons-le, complexe, très politique et pas assez culturel, un homme pourrait donner quelques bons conseils. Il s'agit de M. Odon Vallée, historien des religions, philanthrope, qui depuis 1999 a délivré des bourses à plus de 20 000 étudiants. Ce débusqueur de jeunes talents, ce passeur entre les cultures, a beaucoup fait pour tisser de nombreux liens entre la France et plusieurs pays francophones. On devrait demander son avis à cet homme qui est un bâtisseur. Pragmatique, Odon Vallée met de la raison dans la passion. Il a compris, contrairement à d'autres, que pour que les choses durent, il faut initier les gens très tôt. Le service des autres, c'est ce qui compte pour lui. Trop souvent, certains se lamentent en clamant que la culture française, comme notre langue, décline. S'ils ont parfois raison de se plaindre, le plus souvent, leur manque d'optimisme, de courage et de créativité leur fait perdre tout bon sens, tout goût pour l'action véritable et le dépassement de soi. Si l'on en croit les dernières nouvelles, les lycéens anglais apprennent un peu moins qu'avant le français. Ils sont les nouvelles victimes d'une sorte d'engrenage de la facilité due à une mauvaise décision politique prise en 2004 par le gouvernement de Tony Blair. En dépit de ce constat négatif, le français s'affirme toujours comme la deuxième langue la plus apprise par les collégiens britanniques après la leur. Du côté des bonnes nouvelles, insistons sur la renaissance de l'école française de Rome. Et vous pouvez trouver sur Internet le site de l'école française de Rome, www.efrome.it. IT comme Italie, bien sûr. L'école française de Rome, dirigée par Michel Gras. Cet agrégé d'histoire n'apparaît-il qu'une passion, Rome et la Méditerranée. Il faut savoir que cette école possède la plus importante bibliothèque française à l'étranger, 200 000 ouvrages et plus de 2000 revues. Entre 100 et 130 lecteurs viennent chaque jour, souvent du monde entier, y travailler. Autre événement à mettre en pleine lumière, la célébration de l'année de la France au Brésil, de Rio de Janeiro à Manaus. La culture française, si riche et si diversifiée, s'expose dans tout le Brésil. Pas moins de 645 projets économiques, scientifiques et artistiques français sont présentés dans cet immense pays francophile. Depuis de nombreuses semaines, dans diverses grandes cités du Brésil, il est question de Saint-Exupéry, d'Yves Saint-Laurent, de Doisneau, le photographe, de Matisse, le peintre, de Rodin, le sculpteur, de Chagall, le peintre, de Le Corbusier, l'architecte, de Berlioz, le musicien. De nombreux aspects de la France classique et contemporaine y sont à l'honneur. Il s'agit d'une expérience magnifique au service de la convivencia, c'est-à-dire le vouloir vivre ensemble, de deux nations, la France et le Brésil, qui se connaissent depuis 1504, l'année où le navigateur normand Binot Paulmier de Gonneville a jeté l'ancre à l'embouchure du fleuve South Francisco do Sul, au nord de l'actuel état de Santa Catarina. Autre témoignage plus personnel de l'étonnant rayonnement français, celui de Marjane Satrapi. Elle est l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Persepolis. Et en 2007, le film Persepolis a obtenu le prix du jury du Festival de Cannes. Donc Marjane Satrapi, élevée à Téhéran dans une école française et qui vit à Paris depuis 12 ans, elle considère que pour l'art de vivre, la France est incomparable. Merci. Généreuse avec nous, elle aime tout à Paris. Elle considère que l'humour persan est proche de l'humour français. Dans les deux pays, on rit des mêmes choses, la mauvaise foi, le sexe et l'accent des autres. Nuance très intéressante à souligner, elle se sent française et iranienne à la fois, et non pas, j'insiste, française d'origine iranienne. Elle sait d'expérience qu'en France, on respire le parfum de la liberté. Vénus Kourigata, écrivain très connu né au Liban, a elle aussi une passion pour la France et la francophonie. Elle est l'auteur de nombreux livres, dont un de mes préférés, Le Moine, l'Ottoman et la femme du grand argentier chez Actes Sud. Donc cet écrivain qui a une passion pour la France et la francophonie, depuis des années, elle sillonne le monde pour transmettre sa ferveur pour la langue française et le dialogue des cultures. Cette femme pleine de talent qui nous offre une œuvre riche, près de 20 romans, certains admirables, insistent avec raison qu'il faut connaître les écrivains francophones, car ce sont eux qui défendent et illustrent la langue française dans le monde entier. Ces quelques témoignages très positifs que je viens de citer nous incitent à mieux apprécier les métamorphoses de la langue française. Ceux qui en doutent encore devraient relire leurs classiques, et notamment Louis-Sébastien Mercier, auteur d'un livre qui s'intitule « Néologie », paru chez Belin, dont la profession de foi visionnaire à propos de la langue française est oubliée. Il faut lire son essai Néologie, qui témoigne de sa pensée en faveur de l'enrichissement du lexique, débat très actuel. Il insiste sur l'apport des langues étrangères, du patois ou de la féminisation. Certaines entrées, comme Amatrice, sont d'une absolue poésie. Depuis donc le XVIIIe siècle, époque de Louis-Sébastien Mercier, de nombreux auteurs se sont laissés emporter par leur passion pour le français vivant. C'est le cas aujourd'hui de deux écrivains, Pierre Encrevé et Michel Brodeau, auteur de « Conversations sur la langue française » Gallimard 2007. Ils ont écrit un livre revigorant. Au fil des pages, ils soulignent que malgré ses déboires, réels ou fictifs, la langue française demeure audible par tous quand elle oublie son lien à la nation. Elle est alors entendue dans le monde entier quand elle parle pour le monde entier. On ne sait pas toujours que le français comporte au moins 2 millions de mots différents et qu'en France, on crée entre 20 000 et 30 000 mots nouveaux chaque année. Cet essai tonique met donc de côté bien des idées fausses à lire absolument. Ceux qui désirent comprendre les mille nuances de l'esprit français et sa constitution ont intérêt à explorer les réseaux privilégiés qui donnent sa surprenante vigueur à cet esprit. Il en est un à découvrir, celui des anciens lauréats du concours général. Ce réseau est probablement en France le club le plus fermé, plus sélect, encore que le Jockey Club, selon son président Jean-Jacques Dubuis. Car si l'on n'en devient pas membre à 17 ou 18 ans, on ne peut plus jamais y entrer. Encore un mot pour préciser que le concours général a été créé par l'Université de Paris en 1744. Pour distinguer les meilleurs élèves, il est ouvert aux jeunes filles depuis 1924. Retenons que les 2800 membres actuels de ce réseau méconnu, ce fleuron de l'élitisme républicain, ont un annuaire fort précieux, et ce depuis 2004. Certains de nos académiciens ont d'ailleurs été reçus brillamment au concours général. Les plus réputés se nomment Jacqueline de Romilly et le gaulliste Maurice Druon, qui vient hélas de nous quitter. Bref, les lauréats d'aujourd'hui s'inscrivent dans une longue tradition qui va de Robespierre à Alain Juppé en passant par Rimbaud et Bergson. Imaginons un instant le parcours exceptionnel de l'étonnante Jacqueline de Romilly qui, après avoir été lauréate du concours général, se retrouve des années plus tard élue à l'Académie française. Un tel parcours au service de la langue française et des langues anciennes comme le latin et le grec mérite écoute, respect et allégresse, tant cette femme est un modèle pour nous tous. Cette passion pour la langue française se métamorphose souvent en passion pour les autres langues. Il suffit de lire l'essai de Claude Agège, Dictionneux, c'est-à-dire le dictionnaire amoureux des langues, Plon, Odile Jacob, 2009, pour apprécier le charme du latin, du portugais, du russe, mais aussi du Wangkumara, du Navajo ou du Wolof. L'amour du français et des autres langues apparaît comme le seul antidote à l'espéranto et au volapük, intégré que certains, pressés de réaliser l'unité du genre humain, voudraient faire passer pour les langues du paradis. Toutes les langues ont droit au paradis, celui que leur offre leur locuteur. Autre livre entraînant à signaler, celui de Marie Treps, je cite, « Les mots migrateurs, les tribulations du français en Europe au seuil 2009 ». Cette linguiste est allée étudier sur le continent européen le destin des mots français, leur adaptation et souvent leur détournement. Par exemple, en Lituanie, « Napoléon » est le nom d'un gâteau. En Pologne, un « bardostoka » désigne un soutien-gorge pigeonnant hommage à Brigitte Bardot. En Italie, un chiffon est un tissu luxueux. Ce livre, croyez-moi, est très amusant. Je terminerai cette chronique libre, impertinente, inspirée par M. de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, en insistant sur quelques livres qui montrent le vif intérêt pour le français. Vous savez que Maurice Druon, auteur de « Mémoire, l'aurore vient du fond du ciel », Plon, édition de Fallois, 2006. Vous savez que Maurice Druon nous a quittés le 14 avril 2009, nous laissant en héritage une œuvre considérable, éclairée à merveille par les mémoires que je viens de citer. Ceux qui ne l'ont pas encore lu découvriront un auteur très émouvant pour qui le témoignage est l'acte terminal de notre mission, sa perfection au sens premier du terme. D'aucuns connaissent le romancier, l'homme politique, le secrétaire perpétuel de l'Académie française et le combattant pour la défense de la langue française, mais de Maurice Druon lui-même, de son cheminement personnel, que savons-nous ? Une belle partie de la réponse se trouve dans ses mémoires, elles sont somptueuses. Deux autres livres intéresseront les nombreux auditeurs de Canal Academy. D'abord celui de Jean Cluzel, le fondateur de cette radio qui, dans l'an 4 de Canal Academy, c'est le titre aux éditions Arléa 2009, nous raconte comment cette radio est passée de l'intuition créatrice, formule de l'académicien Gabriel de Breuil, à une audience qui place désormais les académies dans la bataille mondiale du savoir. Ce livre est tourné vers l'espérance. Ensuite, celui écrit par Claude Carrez sur Jean Cluzel, il s'intitule « Jean Cluzel et les médias » édition Aléa, toujours 2009. Il s'agit d'un livre simple, sobre, sur un humaniste qui ne cesse de donner beaucoup à son pays, à la langue française, et à enrichir le dialogue entre les uns et les autres. Trois livres d'un éditeur niçois vous apporteront également, chers auditeurs, mille joies. Le premier rappelle Guillaume Apollinaire, l'italo-polonais, c'est de Nicole Dubus-Vaillant, édition Vaillant 2008, dont on a célébré récemment le 90e anniversaire de la disparition. Ce français aux origines multiples trouve son accomplissement et son bonheur dans cette richesse culturelle qui fait de lui un être unique. C'est un livre passionnant. Le second célèbre un auteur francophone majeur, Panay Istrati, Images d'Orient, édition Vaillant 2008. À la fois conteur, rêveur de mots, Istrati se rapproche du lecteur, le prend par la main et l'emmène dans un autre monde, un Orient sensuel et poétique à la fois. Tous les amoureux de poésie apprécieront enfin le recueil de poèmes de Jean Venturini, qui s'intitule « Outlines », en anglais donc, préface de Jean-Luc Falco, édition Vaillant 2009. Il s'agit de l'œuvre d'un jeune homme, d'un jeune Français, qui a disparu dans un sous-marin en 1940 au large de la Tunisie à l'âge de 19 ans. Révolte et passion entre lucidité et souffrance, Jean Venturini nous raconte des histoires d'amour pleines de chants et de soleil, un livre spécialement dédié à tous les amoureux, un très beau cadeau de Noël. Un petit livre saura également vous plaire. Il chante la grandeur et la beauté du palais de Versailles, celui écrit par la poétesse Rome de Gergue. Ça s'intitule « De par la reine ». La reine marche dans la couleur du temps, aux éditions Chénat Editore et Alain Baudry et compagnie à Paris, publié en 2009. L'auteur milite en faveur des mots migrateurs et veut s'assurer de la vitalité de l'avenir du français, capable de dialoguer avec les langues du monde. C'est très réussi. Je terminerai mon émission aujourd'hui en saluant l'œuvre d'une grande personnalité francophile italienne, le poète et essayiste Giovanni Dottoli, auteur de plus de 100 ouvrages. Il a récemment publié un dictionnaire des citations de mon cœur, préface de Alain Rey, donc du grand linguiste Alain Rey, chez Alain Baudry et éditeur, donc 2008. Dans ce livre, il chante le miracle de l'alphabet qui donne du sens à toute chose une fois dérangée. Ce même Giovanni Dottoli nous touche aussi en nous offrant un jardin en Italie qui présente une série de voyageurs français à la découverte de l'art de vivre de ce pays béni des dieux. C'est chez Honoré Champion 2008. L'Italie des voyageurs français ressemble à un jardin de purification et de dialogue, de confrontation et d'enchantement. Pour nous Français, pour nous citoyens du monde entier, l'Italie est vraiment le bel pays, c'est le beau pays, le pays de la beauté. Pour ceux qui ont envie de découvrir quelques autres tonalités de l'œuvre si diverse de Giovanni Dottoli, il suffira de se procurer La Voix Lumière, Giovanni Dottoli, La Voix Lumière, édition du Cygne 2009, recueil de poèmes où l'auteur chante la liberté de sa voix et des voix du monde avec passion. Il nous entraîne dans ce partage de midi si cher à l'un des premiers auteurs de la francité de la francophonie moderne. Vous avez deviné, il s'agit de Paul Claudel. C'est sur l'auteur des cinq grandes odes, symbole traditionnel de nos continents, que je vous quitte aujourd'hui, chers auditeurs. À la prochaine fois.